Vous êtes en train de construire le sourire aux lèvres, un régime autoritaire. Les mots de Jean-Luc Mélenchon, mercredi dernier, à l'Assemblée, lorsque les députés ont voté la prolongation jusqu'au 16 février de l'état d'urgence sanitaire. Après un passage au Sénat, le texte doit être définitivement adopté aujourd'hui. Les termes du chef de file de la France Insoumise sont forts et lui appartiennent, mais il n'est pas le seul à s'inquiéter pour nos libertés. Si au printemps dernier, la sidération avait semblé mettre un couvercle sur les débats, la situation de cet automne est bien différente. Est-ce parce que nous avons moins peur? Est-ce parce que l'on sait que ça va durer? D'autant qu'au risque sanitaire s'ajoute la menace terroriste et des réflexions sur notre droit qui ne serait plus adapté. En temps de paix, la République n'a jamais connu une telle restriction des libertés. Ce sont vos mots dans une récente interview au journal Le Monde. Jean-Marie Burguburu, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Avant de parler de la crise sanitaire et de la menace terroriste, j'aimerais que l'on commence par ce projet qui fait couler beaucoup d'encre ces jours-ci, le projet de loi de sécurité globale, à l'origine une proposition de loi venue de deux députés La République En Marche sur la police municipale et le secteur de la sécurité privée. Proposition à laquelle a été ajouté un volet sur la protection des fonctionnaires de police et militaires, avec notamment cet article qui entend pénaliser l'usage jugé malveillant d'images de forces de l'ordre. La défenseure des droits, Claire Hédon, a rendu un avis sévère jeudi, se disant particulièrement préoccupée par cette disposition. Et vous, qu'en dites-vous, Jean-Marie Burguburu ?
Bien, je partage l'avis de Madame la défenseure des droits. Et la CNCDH, la commission que je préside, rendra prochainement un avis sans doute dans le même sens. En effet, s'il est normal de protéger les policiers dans l'exercice de leurs fonctions, qui sont des fonctions de plus en plus difficiles, il faut faire attention à ne pas brimer la liberté de la presse, la liberté d'information. Et il sera très difficile de déterminer si l'usage des images de policiers en action est fait dans une intention malveillante ou non. Lorsqu'on entre dans le registre des intentions, le contrôle est très difficile, l'appréciation est très difficile.
Et ça, c'est une question, effectivement, dans ces cas-là d'appréciation, et c'est ce qui rend en effet la question délicate. Alors, le texte est passé en commission, l'examen est prévu mi-novembre, il pourrait évoluer, on verra. On voit en tout cas que l'avis de la défenseure des droits a contribué à mettre en lumière ce sujet, cette proposition de loi. Ce qui prouve bien le rôle important de ce genre d'institution, au moins pour le débat public. Vous avez de votre côté, Jean-Marie Burguburu, déploré que la commission consultative des droits de l'homme que vous présidez n'ait pas été consultée par l'exécutif, par exemple sur l'état d'urgence sanitaire. De manière générale, avez-vous le sentiment d'être sous-exploité ?
Sous-exploité. Allez, nous nous exploitons nous-mêmes puisque nous avons un droit d'auto-saisine. Mais il est vrai que le gouvernement devrait nous consulter plus souvent puisque nous existons depuis longtemps. La commission existe depuis 1947. Mmh. Ça n'est pas quelque chose qui a été créé récemment pour faire plaisir. C'est une institution de la République qui est particulière, mais qui est le conseil indépendant des pouvoirs publics en matière de droits de l'homme. Par conséquent, quand nous ne sommes pas consultés, nous nous auto-saisissons des problèmes. Nous l'avons fait sur le premier état d'urgence sanitaire. Nous le faisons sur le second.
Et en même temps, on voit aussi ce que ça peut vouloir dire. Le fait de qu'on vous demande votre avis ou que vous le donniez de vous-même, ce n'est pas forcément la même chose dans la démarche.
Sans doute, mais dans les deux cas, les avis que nous rendons sont officiels puisqu'ils sont publiés au journal officiel. Donc, les pouvoirs publics peuvent en prendre connaissance, comme l'ensemble des citoyens.
Vous aviez mis en place avec la Commission un observatoire de l'état d'urgence sanitaire et du confinement au printemps dernier. Est-ce que vous poursuivez ce travail ?
Non, nous avons mis cet observatoire en place et cet observatoire a fonctionné pendant plusieurs mois. Et il a rendu, non pas des avis, mais il a produit des lettres d'observation sur les sujets en cause dans l'état d'urgence sanitaire. Mais nous avons pensé que on ne peut pas recommencer l'exercice. Il faut laisser à la commission dans son entier, l'assemblée plénière, la possibilité de rendre des avis, d'émettre des recommandations et de faire des déclarations.
Alors, on en parle beaucoup, mais peut-être que c'est utile de rappeler ce matin, Jean-Marie Burguburu, ce qu'est l'état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça permet ?
L'état d'urgence sanitaire est un système encadré quand même par la Constitution. Ça n'est pas une prise de pouvoir dictatoriale, comme certains le laissent entendre, mais c'est une concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif, supérieure à celle que prévoit par exemple l'article, pardon de jargonner un peu, L3131-1 du Code de la Santé publique. Et c'est donc une concentration entre les mains du Premier ministre, le Président de la République lui-même s'y implique, pour permettre de lutter contre cette épidémie. Et par conséquent, on voit un retrait du contrôle parlementaire qui existe a posteriori et un ensemble de mesures contraignantes qui ont un fort impact sur les droits de l'homme, c'est-à-dire sur les libertés fondamentales, sur la vie de tous les jours des citoyens.
Quel impact, par exemple, pour être concret,
qu'est-ce qu'il y a ? La simple notion de confinement le montre bien. Le confinement, c'est l'interdiction de la liberté d'aller et de venir. Cette liberté est tellement naturelle qu'on ne se rend pas compte que c'est un droit fondamental. Mais lorsqu'on doit rester chez soi et ne pouvoir sortir qu'à certaines heures en période de couvre-feu, ou sortir uniquement avec une autorisation, qui est un système merveilleux inventé pour dire c'est le citoyen lui-même qui se donne l'autorisation à lui-même, mais cette autorisation doit être contrôlée, peut être contrôlée par la force publique, c'est un système qui brime complètement cette liberté fondamentale, comme d'autres libertés, la liberté de réunion, la liberté de manifestation le cas échéant, la liberté de faire du commerce avec tous les magasins qui sont fermés. Ce sont des libertés fondamentales.
La liberté de culte, il en est beaucoup
question.
Alors,
la liberté de culte, et vous voyez que même les ministres du culte, l'Église catholique notamment, est montée au créneau et a lancé des référés liberté pour obtenir cette autorisation qu'elle n'obtient pas.
En temps de paix, la République n'a jamais connu une telle restriction des libertés. Je reviens à vos propos que je citais au début. On pourrait vous répondre, Jean-Marie Burguburu, d'abord que certains estiment que nous ne sommes pas en temps de paix et que quoi qu'il en soit, nous sommes entourés de menaces qui font peut-être nécessairement bouger l'équilibre sécurité-liberté.
Nous sommes en temps de paix en France sur le territoire national. Le terme de guerre employé n'est pas vraiment adéquat parce que si nous étions en guerre contre le virus et que maintenant on nous a dit ensuite qu'il faut vivre avec le virus, nous serions alors sous l'occupation. Vous voyez à quelle époque je fais référence. Nous ne sommes pas en guerre. C'est un terme technique, juridique, la guerre, mais nous sommes en lutte, c'est vrai, contre cette épidémie, et il est normal que le gouvernement cherche à protéger les citoyens.
Mais donc, vous trouvez finalement cet état d'urgence sanitaire que face auquel vous avez des réserves, vous le trouvez néanmoins justifié ?
Alors oui, c'est plus une question sans doute de forme qu'une question de fond. Il est nécessaire pour le gouvernement de faire tout pour protéger les citoyens, et si effectivement le confinement dur de la première période, le confinement moins dur actuellement, et encore peut-être sera-t-il durci, sont nécessaires, ces confinements, eh bien, il faut le faire. Le problème est une question de méthode, disais-je, c'est-à-dire de consulter le Parlement avant, de prendre les examens de contrôle qui fait qu'on respecte la Constitution, on respecte le droit public et on respecte les droits de l'homme. Et la CNCDH, l'acronyme facile pour dire le nom un peu long de cette commission, la CNCDH est là pour rappeler au gouvernement la nécessité de respecter les droits de l'homme. Ils peuvent être affectés, ils peuvent recevoir un impact, mais il faut que cela soit justifié. Et ça l'est justifié si cet impact est proportionné, il est nécessaire et il est temporaire. Et il faut voir si ces trois conditions sont réunies.
Et il faut rappeler que depuis les attentats de novembre 2015, 5 ans donc, la France a vécu plus de la moitié du temps sous état d'exception. Vous dites, Jean-Marie Burguburu, le problème des états d'urgence antiterroristes ou sanitaires et qu'ils ont tendance à se renouveler. Et en même temps, il y a aussi une demande de protection très importante face au danger, face à la menace. Or, une fois que l'état d'urgence est là, en sortir quelque part, c'est dire le danger n'est plus.
C'est vrai. On a compté que depuis l'état d'urgence antiterroriste et jusqu'à ce jour, il y a, je crois, 847 jours sous les états d'urgence. Soit l'état d'urgence antiterroriste, soit l'état d'urgence sanitaire. Alors, ces états d'urgence sont peut-être nécessaires, mais on s'aperçoit que lorsqu'on les lève, certaines des mesures qui étaient prises pendant l'état d'urgence perdurent. Et donc il y a insensiblement un renforcement d'une législation contraignante. Et c'est ce sur quoi aussi nous attirons l'attention du gouvernement.
Les pouvoirs peut-être s'accoutument, s'habituent à ces états d'urgence, mais nous aussi, non ?
Oui, je l'ai dit aussi, les citoyens s'habituent et on a même pu être étonné de la façon avec laquelle, notamment lors du premier confinement, les Français ont accepté, en maugréant peut-être, mais en respectant le confinement total de l'époque. On pensait que cela était réservé à d'autres populations, sous d'autres régimes. Eh bien, les Français, pourtant frondeurs, eh bien, l'ont accepté. Ils l'acceptent peut-être un peu moins maintenant, pour deux raisons. D'une part, parce que cela dure, et d'autre part, parce que on est peut-être moins certain de l'effet positif de ce confinement.
Oui, effectivement, contrairement à la première fois, le débat est beaucoup plus vigoureux, on va dire, et les mesures beaucoup plus contestées, mais elles le sont aussi, parfois pour dire qu'elles ne sont pas assez sévères. C'est-à-dire qu'il y a aussi, malgré tout, une demande de protection, d'autorité. On dit, voilà, le confinement tel qu'il est ne sert à rien, n'est pas efficace, donc il faut le durcir, que fait le gouvernement ?
Oui, on retrouve le côté frondeur que j'évoquais à l'instant. Certains estiment que les mesures sont trop fortes, d'autres estiment qu'elles ne le sont pas assez. Ça prouve peut-être qu'elles sont dans le juste milieu.
Donc finalement, ça vous convient ce qui se passe
en
ce moment ?
Je ne dis pas que ça me convient si elles restent respectueuses des droits de l'homme, c'est-à-dire si elles répondent au triptyque que j'évoquais de nécessité, de proportionnalité et de temporalité.
Plus personne ne supporte ce qui nous arrive, dit Marlène Schiappa cette semaine dans Valeurs Actuelles, la ministre déléguée à la citoyenneté qui répond à une question là sur la nécessité de revoir notre cadre juridique face à la menace terroriste cette fois-ci. C'est quelque chose que nous entendons beaucoup, les Français ne supportent plus, surtout depuis l'assassinat de Samuel Paty. Que fait-on avec cette émotion, cette exaspération, Jean-Marie Burgubureux ?
Vous savez, l'opinion publique est à manier avec précaution. Il faut faire attention aux mouvements d'humeur. Le terrorisme frappe et il frappe peut-être à cause du sang qui coule plus visiblement que la maladie qui pourtant fait des ravages aussi. Eh bien, il ne faut pas, à cause de ces situations, changer les lois démocratiques, changer le régime qui est le nôtre. Donc prendre quelques mesures, oui, mais ne pas transformer quand même la France en état policier. Attention, la CNCDH ne fait pas de politique. Elle n'est pas d'un bord politique de droite ou de gauche. C'est un organisme qui a pour objet de s'occuper du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, ces droits de l'homme, ces libertés fondamentales ne sont elles-mêmes ni de droite ni de gauche. Il suffit qu'elles soient respectées, car c'est ce qui fait le bien-vivre dans notre pays.
Moi, pour le coup, je vais citer un politique, en l'occurrence le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau, qui dans Le Parisien ce matin dit « Comment voulez-vous que les Français comprennent que l'on peut supprimer leur liberté de déplacement dans le cadre de la lutte contre le Covid ?» et que l'on ne puisse pas éviter un imam radical ?
Ce sont deux questions différentes. Il y a bien sûr la liberté de circulation dont on souligne qu'elle est affectée par la décision de confinement. Et il y a les problèmes de poursuite, d'expulsion et de lutte nécessaire aussi et qui doit être forte contre l'islamisme radical et terroriste. Pour cela, il faut respecter les procédures qui existent. Il n'y a pas une absence de procédures. Il y a des procédures, mais qui sont un peu longues et complexes, et qui font que la France, effectivement, doit respecter non seulement le droit national qu'elle s'est donné, mais aussi les conventions internationales auxquelles elle a adhéré. Et puis, il y a aussi les difficultés. On le voit, par exemple, avec le voyage de Monsieur Darmanin en Tunisie, les pays vers lesquels on voudrait expulser les étrangers indésirables sur notre sol ne sont pas volontaires eux-mêmes pour recevoir leurs propres citoyens soupçonnés ou accusés de terrorisme ou libérés après une peine de prison pour terrorisme.
Donc l'état de notre droit n'est pas la seule question.
L'état de notre droit n'est pas seul en cause. Il y a un problème de relations internationales. La France n'est pas seule au milieu du monde. Elle vit avec ses voisins, avec les pays avec lesquels elle a des relations juridiques internationales.
Jean-Marie Burguburu, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, avec nous dans les matins du samedi sur France Culture. Nous vous retrouvons juste après la revue de presse des idées. Nous sommes toujours avec notre invité Jean-Marie Burguburu, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous suivez, comme nous tous, j'imagine, ce qui se passe aux États-Unis. On parle ici chez nous de plus en plus souvent de fatigue démocratique. Là-bas, la démocratie, elle est tout de même particulièrement secouée, malmenée et violentée en ce moment particulièrement. Comment est-ce que vous regardez ce qui se passe aux États-Unis ?
La première réflexion que l'on peut avoir, c'est que le système électoral des grands électeurs est sans doute dépassé. Il était, à mon avis, valable il y a quelques nombreuses dizaines d'années. À l'époque, au XXIe siècle où nous sommes désormais, le système paraît dépassé. Je ne parle pas tant du dépouillement des bulletins. Après tout, il y a parfois des votes par machine à voter, et puis on voit des bulletins gigantesques, pas nos petits bulletins comme en France, mais des feuilles d'ordinateur, 3 ou 4 feuilles qu'il faut glisser dans une urne. Mais je parle aussi du système qui est tout à fait contrariant entre le vote populaire et le vote par les grands électeurs. Puisqu'on sait déjà, comme on l'a su à l'époque pour l'élection gagnée par Trump contre Hillary Clinton, que le vote par le nombre des citoyens était préférable pour Hillary Clinton et qu'il est désormais indiscutablement supérieur pour Joe Biden. Alors, c'est le problème qui montre qu'il y a une inadaptation. Mais pour le changer, c'est difficile pour deux raisons. D'abord parce que les Américains sont très attachés à leur système et que on voit bien leur constitution elle-même est immuable. C'est pas comme la nôtre qui change assez souvent. Ils la gardent et il y a eu quelques amendements auxquels ils se réfèrent. La deuxième raison, c'est que les États-Unis, c'est un pays fédéral et qu'il a les lois fédérales, mais il a les lois internes de chaque État. Et ces États sont véritables États. Ce ne sont pas des provinces ou même des Länder comme en Allemagne. Ce sont des États, certes non indépendants, mais des États quand même.
Pour revenir chez nous, Jean-Marie Burguburu, vous avez dit dans l'interview au Monde que je citais tout à l'heure, avec la constitution de la Ve République, le président français est déjà l'un des chefs d'État les plus puissants du monde démocratique. Il n'a pas besoin de pouvoir supplémentaire, mais il croit que si. Pourquoi ?
Oui, j'ai dit cela effectivement et ça a été repris. Effectivement, je ne le nie pas. Le problème est le suivant. D'une part, le président de la République française, nous sommes en régime à la fois parlementaire et présidentiel, mais de plus en plus présidentiel, sans qu'il y ait le système de checks and balances comme il y a aux États-Unis. Et d'autre part, il y a sans doute un besoin, une demande des Français de voir à leur tête un pouvoir fort. On sait les critiques parfois infondées qui ont été formulées contre la 4e République, mais depuis la 5e République et depuis l'élection du président de la République au suffrage universel qui date de 1965, donc il y a longtemps maintenant, eh bien le pouvoir est concentré à la présidence de la République. Certes, il y a un Premier ministre, mais on a vu récemment, ça et là, des voix qui appelaient même à la suppression du poste de Premier ministre.
Et donc,
voyez-vous, cela veut dire que le pouvoir revient au président de la République et on a pu s'étonner que le président, prenant la parole assez souvent, puisse même s'inquiéter de savoir si les Français se lavent bien les mains, s'ils respectent les mesures barrières. On pensait que cela était réservé, même pas au Premier ministre, mais au ministre de la Santé.
Et en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cet équilibre aussi qui est très compliqué. En même temps, nous sommes très attachés à nos libertés, on le voit en ce moment. Et en même temps, il y a cette attendent cette demande très forte de protection de l'État. C'est aussi, de ce point de vue, un équilibre du point de vue du gouvernement qui est nécessairement difficile à trouver.
Il est difficile à trouver, effectivement. Mais est-ce que le besoin de sécurité que ressentent tous les Français et qui est peut-être insufflé par une crainte diffuse, la crainte du terrorisme, la crainte de l'épidémie, est-ce que ce besoin de protection appelle nécessairement à une restriction des libertés ? Nous pensons que non. Nous pensons que la sécurité qui est demandée est nécessaire, mais que la restriction des libertés n'est pas corrélative.
On a dit au début de l'interview que vous regrettiez donc de ne pas être davantage saisi, consulté, puisque c'est dans le titre de cette commission. D'une manière générale, trouvez-vous que le débat public autour de ces questions fondamentales, sécurité, liberté, existe suffisamment ? Il y a le Parlement. Tout de même, il y a les médias, les tribunes, les débats, mais comment associer pleinement, et le faut-il d'ailleurs, les citoyens plus largement ?
Voilà une excellente question, parce que si le débat existe, il est en fait confisqué dans une opposition droite-gauche qui, sur ces sujets, devrait être gommée. La sécurité n'est pas de droite ou de gauche. La sécurité appartient à tous les Français. C'est une question dont tous les politiques doivent légitimement se préoccuper, mais voir que certains à droite contestent des mesures qu'ils auraient sans doute prises s'ils étaient au gouvernement, que d'autres les contestent encore plus fortement à gauche, alors qu'il faudrait qu'ils les prennent aussi s'ils étaient au pouvoir, cela est un peu affligeant. Je crois qu'au-delà de cette opposition, il y a le guide du respect des droits de l'homme. Vous me direz que j'y reviens souvent, mais c'est normal, c'est ma fonction, c'est ma préoccupation.
Oui.
Et ce respect des droits de l'homme, ce respect des droits fondamentaux, est un respect qui n'empêche pas de prendre des mesures de protection des citoyens.
Et sur l'état d'urgence, on disait tout à l'heure l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence terroriste, on a plus parlé là du sanitaire. Souvent, on mélange un peu les deux, en tout cas on les cite en même temps, c'est ce que je fais moi-même ce matin. Vous, justement, du point de vue qui est le vôtre, avec les droits de l'homme comme boussole, regardez-vous différemment, très différemment, les deux choses, et notamment, quelle est votre réflexion par rapport à la menace terroriste actuelle, et surtout à la façon dont on y répond? Avec aussi tout ce qui arrive devant nous, on voit avec le projet de loi séparatisme qui devrait être durci. Mmh. Comment regardez-vous ça à la Commission ? Est-ce que vous allez vous saisir, par exemple, tout seul, sur ce texte à venir sur le séparatisme ?
Bien sûr, nous allons nous saisir de ce texte et nous y réfléchissons déjà, parce que la CNCDH fonctionne avec une assemblée plénière qui se réunit environ une fois par mois. Et c'était ça, cette assemblée qui a des projets d'avis. Ces projets sont votés avant d'être publiés au journal officiel. Mais voyez-vous, on sent effectivement qu'il y a insensiblement un glissement de l'état d'urgence sanitaire vers l'état d'urgence terroriste, qui n'est pas nommé pour l'instant. Mais les attentats survenus en période d'urgence sanitaire font qu'il y a une sorte de mélange et que les mesures de protection antiterroriste vont s'intégrer ou se superposer aux mesures d'urgence sanitaire. Si la population est confinée et si on interdit désormais de filmer les policiers en action, comme le projet existe,
de sécurité globale.
On se demande s'il n'y a pas vraiment là trop de mesures qui, confondues, vont vraiment au-delà de ce qui est supportable, au-delà de ce qui est juridiquement admissible. Et si c'est le cas, la CNCDH le dira haut et clair.
Mais donc, on ne comprend pas tout de même parfaitement. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, que je citais au début à l'Assemblée cette semaine, quand il dit « vous êtes en train de construire le sourire aux lèvres, un régime autoritaire », est-ce que vous, vos inquiétudes, elles vont jusque-là, Jean-Marie Burgu-Burgu ?
Non, je ne veux en aucun cas être confondu avec quelque parti politique que ce soit, et j'allais dire surtout pas avec la France insoumise. Lorsque la CNCDH est le conseil indépendant des pouvoirs publics en matière de droits de l'homme et de liberté fondamentale, elle ne fait pas de politique. La commission que j'ai l'honneur de présider
n'est pas un organisme politique. Non, mais sur le fond du sujet.
Elle elle prend des mesures, elle réfléchit sur la situation et elle alerte les pouvoirs publics pour dire « si vous devez faire telle ou telle chose, allez peut-être jusque-là, mais pour y aller, prenez les précautions nécessaires, consultez le Parlement, l'Assemblée nationale où il y a encore une majorité, le Sénat où il n'y en a pas, en faveur du gouvernement, et écoutez ce que disent les parlementaires pour prendre la mesure la plus adaptée. Je ne dis pas « ne faites rien ». Et je ne dis pas « si vous faites quelque chose, nous entrons en dictature ». Sûrement pas. Mais les droits de l'homme, c'est quelque chose de fragile. Les droits de l'homme, c'est quelque chose d'impalpable. Les droits de l'homme, c'est la vie quotidienne. C'est la vie de tous les jours. Je dis parfois que les droits de l'homme, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain. On les utilise sans savoir qu'on le fait. La liberté d'aller et de venir, la liberté de faire du commerce, la liberté de sortir de chez soi, de rentrer chez soi, de sortir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ce sont des libertés qui sont maintenant affectées. Si le gouvernement estime, et il le prouve, qu'il est nécessaire, pour un temps seulement, et pour un motif précis, d'affecter ces libertés, il faut l'accepter.
Jean-Marie Burguburu, vous restez avec nous pour le dernier quart d'heure des matins du samedi.